réseau Cogeco. Cogeco. Vous écoutez les amateurs de sport week-end. Voici Pierre Vézina.
On a réussi à rétablir le contact avec Ross Amber du côté de Las Vegas, mais on va lui parler dans environ 13-14 minutes. Ça va nous permettre de parler tout de suite avec Jacques Villeneuve du Grand Prix de Formule 1 de Belgique.
Ce segment course automobile avec Jacques Villeneuve vous est présenté par Ultramar et ses 800 arrêts au puits à travers le pays.
C'était le retour au travail pour les équipes de Formule 1 en fin de semaine avec le Grand Prix de Belgique après un petit repos de 3 semaines. Et ça nous fait plaisir de rejoindre en Belgique l'ami Jacques Villeneuve, qui est notre spécialiste de Formule 1. Et on ne peut pas tomber sur un meilleur spécialiste, évidemment. Bonjour, Jacques.
Bonjour, bonsoir ici.
Oui, Jacques, dis-moi, la Belgique, c'est toujours un Grand Prix spectaculaire par d'abord le décor de Spa-Francorchamps, mais aussi par... l'aspect vitesse, c'est incroyable, la vitesse qu'on peut atteindre en virage, entre autres à Eau Rouge, avant la montée du Raidillon. Est-ce que c'est encore le virage le plus excitant pour les pilotes, ça?
Oui et non. Le plus excitant par les vitesses, parce que visuellement, il est impressionnant, c'est les pilotes arrivent en face d'un mur. Mais le virage était à fond toute la course. Donc, en fait, en parlant avec Hamilton, il disait que ce n'est plus un virage, c'est tout simplement une ligne droite, un peu tordu, mm-hmm. et ça passe facilement en fond, il faut tout simplement pas se tromper. Donc, ça a perdu un peu de sa spécialité à ce niveau-là.
Ouais.
Par contre, c'est Pouhon qui est devenu impressionnant, un virage à gauche qui se fait en descente, qui maintenant ouais. se passait en qualification à 285 km/h. C'est hallucinant. Wow.
Et ça, on pouvait pas faire ça auparavant parce qu'on n'avait pas l'aileron de requin sur le capot de la voiture. C'est correct.
Oui, il y avait moins d'appui aérodynamique, les pneus étaient moins performants aussi. Donc, à l'époque, au rouge, je parle d'il y a 20 ans, passait à fond, mais seulement 2 ou 3 tours pendant les qualifications, et la voiture était très nerveuse. Donc, à chaque mm-hmm. fois, c'était comme aller au casino, jeter les dés et espérer ouais. que ça passe. Donc, il y a quand même une évolution à ce niveau-là. C'était plus ouais. excitant quand il y avait le risque de sortie.
Ouais.
Maintenant, par contre, les vitesses sont impressionnantes.
Et tu sais de quoi tu parles? Quand on parle de risque
ah,
de
oui,
sortie.
Ah oui, j'ai passé la faute 2-3 fois, là.
Ah,
deux
oui. fois. Et ça passait, et ça passe encore bien, à condition qu'on ne soit pas côte à côte avec une autre voiture. Parce que là, celle-là,
oui,
le risque
non,
est élevé.
À deux de large, la piste se ouais. rétrécit énormément, surtout ouais. à ces vitesses-là.
Et on l'a vu aujourd'hui avec Vettel sur Hamilton à la relance. C'était assez audacieux comme tentative. Ça n'a pas fonctionné, mais c'était assez excitant comme manœuvre.
Oui, le problème cette année, il y avait dans le passé aussi, c'est que les gommes surchauffent facilement, les pneus. Donc, les pilotes peuvent attaquer un tour ou deux et après doivent économiser tout au long de la course pour rester dans la bonne zone de température des gommes. Et lorsqu'ils se suivent, le pilote qui est derrière perd de l'appui aérodynamique mm-hmm. et chauffe encore plus ses gommes. Et c'est pour ça que Vettel avait un tour ou deux pour attaquer. Et après, il devait juste suivre le train, malheureusement.
OK. Bon, avant de parler de la course comme telle, parlons un petit peu des qualifications hier, parce que Lewis Hamilton a rejoint Michael Schumacher avec une 68e pole position à son 200e Grand Prix. C'est difficile de comparer les époques, Jacques, mais est-ce que à quelle place, où est-ce que tu mets Lewis Hamilton dans l'histoire par rapport à Michael Schumacher?
Ben, il est en train de l'écrire, sa légende, donc on ne sait pas encore où ça va se terminer. Pour la légende, il faut attendre qu'il ait pris sa retraite, enfin qu'il ne roule plus.
Mm-hmm.
C'est un peu le Grand Prix, donc en moyenne, sa moyenne est très très bonne, mais la plupart de ses pole positions, il les a prises quasiment toutes chez Mercedes, donc avec une voiture qui est depuis 4 ou 5 ans imbattable.
Ouais.
Et maintenant, à l'époque, il y avait 16 Grands Prix par saison, maintenant il y en a 20-21. Donc mm-hmm. En l'espace de 4 saisons, c'est 5 années de Grand Prix effectuées par le passé. Schumacher a quand même été assez longtemps dans des voitures qui n'étaient pas assez performantes pour aller mm-hmm. taper la pole. Donc, mais généralement, les pilotes qui battent les records, c'est aussi parce qu'ils sont dans les meilleures monoplaces,
ouais.
comme l'Alain Prost et ainsi de suite. Mais en même temps, il faut que le pilote sorte du lot, parce que généralement, son coéquipier est aussi rapide.
Mm-hmm. Bon, puis revenons encore une fois sur les qualifs d'hier avec les Williams. Lance Stroll, seulement une sortie, 18e place. Ça ne progresse pas chez Williams, là.
Non. Puis en plus, il était loin de son coéquipier, Felipe Massa, qui n'avait même pas roulé le vendredi parce qu'il s'était sorti.
Mm-hmm.
Donc, il était à plus d'une seconde. Donc, ça, c'était pas très bon. Et puis, les bruits qui courent, c'est qu'apparemment, il y avait eu des essais. Lance avait été roulé avec sa vieille Formule 1 la semaine passée. En Allemagne, donc, on ne peut pas parler de manque de préparation.
Mm-hmm.
Donc, il faut que ça progresse, là, parce que c'est beau, il y a eu le podium, mais il faut que ça progresse, il faut que ça roule plus ouais. vite, il faut surtout qu'il soit dans les temps de Felipe Massa à chaque week-end de course. Ouais,
j'ai souvent entendu ça, qu'il fallait faire la comparaison entre les deux pilotes parce que c'est la même voiture sensiblement, mais Massa, au départ, a 250 Grands Prix de plus derrière la cravate. Est-ce qu'on peut comparer vraiment les deux?
Ben c'est c'est le seul moyen, parce que le Massa, il est plus à sa meilleure époque non plus. Mm-hmm. De toute façon, il faut regarder Ocon et Perez, par exemple. Perez, ça fait quand même quoi, 6-7 ans qu'il est en Formule 1. Ça fait énormément de Grands Prix, plus de 100 Grands Prix pour Perez, et Ocon le bat. Mm-hmm. Tout simplement. Donc oui, la comparaison, peut-être pas sur les 2-3 premiers Grands Prix, mais maintenant on est dans la deuxième moitié de saison et il faut être au moins au niveau de son coéquipier, ouais, ou à quelques dixièmes.
OK. Alors, on arrive à dimanche. La course comme telle, ça a été relativement tranquille à l'avant. Est-ce que tu as vu la même chose que moi?
Oui, c'était tranquille. C'était tranquille partout. Et à part les relances. À chaque fois qu'il y a eu une relance, là, les pneus n'étaient pas encore chauds. Et donc, mm-hmm, les pilotes pouvaient attaquer sur la relance pendant quelques virages. Mais c'est le problème qu'on a sur plusieurs Grands Prix. Un problème Pirelli, hein, qu'on a depuis longtemps. Dès que la fenêtre d'utilisation est de peut-être 5 degrés. C'est minuscule. Mm-hmm. Dès que les pilotes attaquent un peu, les pneus chauffent, les pressions des pneus montent et après, c'est un cercle vicieux. Et les pilotes doivent rouler en regardant le volant pour voir la température de leur pneu et ralentir. Donc, ils roulent à peu près à 80% des possibilités, des capacités de la monoplace tout au long de la course. Donc, ils font juste se suivre. Donc, ça, c'est un peu un problème.
OK. Rappelons d'abord que Lewis Hamilton l'a emporté devant Sébastien Vettel, qui a fait quelques tentatives en fin de course, merci à la relance, qui a eu lieu au 34e tour sur 44. Puis derrière, c'est Ricardo, Raikkonen et Bottas dans l'ordre. Et Stroll s'est maintenu, lui, 14, 15, 16, a terminé 11e à la faveur de la relance, justement, a gagné quelques positions là. Pas grand-chose de positif à retirer de la course.
Non, il y a eu l'accrochage entre les deux pilotes Force India.
Ah oui, bien ça, je garde ça pour après.
Son coéquipier dans le mur. Ouais. Oui, mais ça a permis de récupérer des positions. Ouais. Mais sinon, oui, à l'avant, c'est... Mais Ricardo, comme d'habitude, hein, il manquait de rythme tout au long du week-end, mais il est toujours là pour saisir les occasions. Donc, plusieurs podiums cette année, une victoire avec une voiture qui ne devrait même pas terminer sur le podium. Et il est souvent moins vite que son coéquipier, mais dès qu'il y a une petite opportunité, il l'a saisi. C'est impressionnant.
Ouais. Bon, parlons-en des deux accrochages, parce qu'il y en a eu un dès le départ et un autre plus tard qui a failli être une méchante catastrophe entre les deux voitures Force India, Ocon et Perez. Est-ce que c'est pas un peu ridicule? C'est pas un peu ridicule, ce genre de lutte-là?
Oui, c'est ridicule parce qu'il y a le pilote un peu plus expérimenté qui veut pas que le jeune loup l'embête, loup qui veut pas se faire marcher dessus, qui veut montrer qu'il a sa place. Mais ce que Perez a fait est inacceptable de toute façon. Parce que là, on parle pas de combat, on parle de bloquer en pleine ligne droite et de tasser un autre dans le mur. C'est inacceptable. Mais en grande partie, la faute vient aussi des commissaires de la FIA qui ne sévissent pas sur ce genre d'action. Dans les petites catégories, ça fait 10, 15, 20 ans qu'on s'en plaint, qu'on le dit, mais jamais il y a de pénalité à ce niveau-là. Et ce sont les pénalités les plus importantes à donner. Et ça devrait commencer en Formule 4. Ce genre d'action avait débuté à l'époque avec Michael Schumacher. Mm-hmm. Et tous ces jeunes pilotes-là ont grandi en regardant ça et en disant « Ah, ben c'est la norme, c'est comme ça qu'il faut piloter, mais c'est inacceptable. » Et malheureusement, alors que la FIA pousse la sécurité, on nous en parle tout le temps, même qu'on va avoir le halo l'année prochaine, c'est le morceau en carbone qui va au-dessus de la tête des pilotes. Et le moment où ils pourraient montrer vraiment pousser cette sécurité sur quelque chose d'important, ils ne le font pas et c'est vraiment très dommage.
Par contre, ils l'ont fait pour Raikkonen qui n'a pas respecté un drapeau jaune. C'était pas très dangereux, puis lui-même s'en est plaint.
C'est pas grave, il y a un drapeau jaune, il y a une règle qui est claire. Il faut ralentir, c'est tout. Donc la question ne se pose même pas. C'est pas au pilote de juger s'il y a danger ou pas. Mm-hmm. Parce que si le pilote prend le temps de juger s'il y a danger, c'est déjà trop tard.
Ouais. Et il ne sait pas s'il y en a un autre danger plus loin aussi. Ça peut être le cas aussi.
Oui, parce que le pilote arrive là à 320 km/h. S'il doit réagir, il ne pourra pas. Donc, il y a un drapeau jaune, le pilote doit ralentir. Oui. Surtout que hier, samedi, Felipe Massa avait écopé de 5 places de pénalité sur la grille à cause de ça, justement, et au même endroit.
Je veux te parler un petit peu de Fernando Alonso qui, c'est tellement triste la façon dont ça risque de se terminer sa carrière en Formule 1. On l'a entendu dire à un moment donné, assez tôt dans la course, à ses équipiers, « No more radio ». Ça veut dire qu'il ne veut rien savoir, puis il sait qu'il est dans le trouble. Là.
Il est frustré, il voit que ça s'en va nulle part, et il voit qu'il n'y a pas de place dans les autres écuries. Il a des difficultés à trouver des écuries qui le veulent. Pourquoi? Parce que quand il a quitté Ferrari, il était très agressif avec ses commentaires. Il a fait des jeux politiques qui n'ont pas plu. Et la perception est un peu que c'est un destructeur d'équipe. Politiquement. Et donc, les équipes font attention. Même s'il est un des pilotes les plus rapides. Il est impressionnant en course et ils ont du mal à vouloir prendre le risque. Et là, il se rend compte qu'il n'y a peut-être plus d'opportunités, mais il ne peut s'en vouloir qu'à lui-même. Il était chez Ferrari, il avait un contrat. Il avait qu'à y rester.
Donc, on ne risque pas de le revoir là, surtout que Vettel a signé pour 3 ans.
Ah, non. Puis même sans signature de Vettel, Ferrari ne l'aurait jamais repris.
Alors, est-ce qu'on risque de le revoir l'an prochain ou si tu crois qu'il pourrait aller être tenté de venir aux États-Unis à participer aux 500 000 d'Indianapolis? Ça a eu l'air de d'y plaire beaucoup.
Ben là, il y a des rumeurs qu'il pourrait peut-être aller chez Williams. Donc, pourquoi pas qu'il reste chez McLaren parce qu'il y a quand même un gros salaire qui vient avec. Sinon, pourquoi pas la Formule 1? Ça serait génial de le voir rouler dans ses bolides.
Ah ben oui, pourquoi pas. Dis-moi, Jean, que je t'ai entendu dire c'est vendredi avec Mario Langlois que tu avais eu l'occasion durant les vacances de piloter une ancienne Formule 1, une McLaren, je pense.
Non, pas une Formule 1. Une Formule 1. C'était une vieille voiture de tourisme avec un toit et tout. Donc, une Lotus Cortina de 1965.
Quand même.
Ben, c'était une course.
OK, alors, mais pour toi, ça devait ressembler à une balade du dimanche avec le coude appuyé sur la
vitre. Oui, mais en fait, c'était une course organisée par le prince du Danemark. Ouais. Donc, il y avait des championnats locaux, championnats scandinaves aussi qui étaient là, plus une course comme ça, Pro-Am. Et j'y étais parce que j'y étais avec mes anciens coéquipiers de Formule 3 du Japon, qui étaient comme Christensen, qui est 8 fois vainqueur au Mans, et Richard Rydell, un Suédois, qui lui aussi a gagné les championnats anglais de voitures de tourisme. Ouais. Et donc, c'était un peu les retrouvailles, comme parfois on voit au collège, les 20 ans après ou 30 ans après. Voilà. Donc, mais une fois en piste, c'était de la vraie course, donc c'était vraiment amusant.
Ah oui, le pilote ne sort jamais du corps, hein?
Non.
On va là pour gagner.
Jusqu'à la mort.
Jacques, merci beaucoup. On se reparle la semaine prochaine après le Grand Prix d'Italie. Ce sera le dernier sur le sol européen. Donc, ça va se passer vendredi, samedi et dimanche prochain à Monza. Bonjour, Jacques.
À très bientôt.
Merci.
Bye bye.
Au revoir.
Je pense qu'on est perdu.
Ben, j'ai suivi le GPS.
C'est ça que je dis, on est perdu.
Ben non, regarde, c'est notre Ultramar, juste au coin, là.
Hey, ils sont partout, eux autres.
Ultramar est fier de s'associer au segment course automobile avec Jacques Villeneuve, la meilleure façon de rester informé tout au long de la saison. Et avec plus de 800 stations à travers le pays, c'est facile de carburer avec Ultramar.
Non, mais ça conduit-tu comme des fous, par ici?